Cette émission est une présentation Intersport Productions.
94.5 Unique FM, les micros sont ouverts.
Bienvenue dans le vestiaire.
Il y a comme une odeur d'esprit d'équipe.
Avec une séquence de 5 défaites, de peu importe qui se présente de l'autre côté de la patinoire, les Sénateurs doivent faire fi de tout cela et surtout se concentrer sur ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire gagner un match. Ça tombe bien, c'est un jour d'un match aujourd'hui.
Voici notre promesse.
Ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire.
Au 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre.
The Canucks are in town à leurs 5 derniers, c'est 3-1-1. Aussi là, il y a peut-être une petite guerre intestine entre le président et l'entraîneur-chef Bruce Boudreau. Ça bouille un petit peu plus que pour DJ Smith dans l'univers du coach des Canucks. On va mettre la table avec le match d'aujourd'hui avec le coach sans quartier. On parle de l'actualité en Ligue nationale de hockey avec Renaud Lavoie. Il sera question également de football avec Marc Schreibert. Sans oublier la portion basketball avec Roseanne Joly. Mesdames, messieurs, avec un énorme plaisir, on vous dit bienvenue dans le vestiaire! En ce mardi, on vous parle en direct du centre Canadian Tire d'Ottawa, théâtre du match entre les Sénateurs qui vont recevoir les Canucks de Vancouver. Par la suite, on s'en va sur la route et on aura un affrontement contre les Devils et les Flyers de Philadelphie. Faudra certainement bien terminer cette portion-là. Et une des choses qu'on veut surveiller, c'est surtout la façon de terminer nos périodes. Également, l'avantage et le désavantage numérique qui a fait pouet. Dernièrement, ça ne va pas bien. En fait, le désavantage numérique en 11 matchs n'a été parfait qu'à 2 reprises depuis le début de la campagne. Chose inquiétante, on va en parler. JBD qui sera installé dans la formation. Cam Talbot sera le gardien partant. Quelques changements à la formation pour en parler, le coach en quartier. Mais tout d'abord, je vous présente un extrait du point de presse de DJ Smith ce matin. Il n'y avait pas d'entraînement, mais il a parlé. Voici DJ.
Decision making under pressure. You know, if it's a tie game or it's the end of the period, if you have a lead, if you're trailing late, whatever the situation is, we have to be better under those circumstances. I think you can look back at how many points we've kind of lost in the first 11 games where we haven't made the right decisions in the last minutes, 2 minutes of a period, last 3-4 minutes of games, you know, they've piled up. And that's something for me, we've showed a lot of maturity in some games, and we need to see that going forward here, and you got to start grabbing points.
And Bernard Dockery, you weren't married to having him with Shabbat tonight, but do you plan on at least starting that way, or how do you kind of plan on deploying him?
Yeah, I think we'll start that way. I mean, that's a pretty high octane offense over there. If you look at their three centers, probably as deep as anyone down the middle. So I don't know how many minutes, you know, you'll want to have him, you know, out there against those top guys. I mean, he's going to get some for sure. You know, Shabby plays a lot of minutes, so but he will play some shifts with Shabby for sure.
What do you want to see from those two together?
Well, obviously Shabby wants to get in the rush and, you know, and create some offense. Doc has to be a guy that's looking out for that and has to be able to clean up, you know, if it is an odd man rush going the other way. And then for Doc himself, he's got to be able to help us break the puck out, get some pucks to the net offensively. Our defense haven't had enough shots on net, you know, in these games. I think we're averaging around 8 a game. It's got to be higher than that for me. And I think Doc's one of those guys. And when he's been up and when he was up last year, I think he got some pucks to the net for us. He showed a little bit of offensive touch there at the end last year. So let's hope he can get that going.
Coach, what do you need more of from your penalty killers?
I don't want to say desperation because those guys are all good at what they do and they all block shots. you know, I think it's the failed clears and really bearing down at the end of, I think we've been scored on 3 times in under the last 15 seconds of the penalty kill, and they all come from failed clears. And when you fail clear or you don't get it all the way down, maybe you don't get a change and then you're not organized. So we've been scored on 9 of 11 games, you know, on the penalty kill. We've had some really good stretches of penalty killing as well. It's not like it's, you know, we're getting hemmed in. It's I think we've made some big mistakes, flipping it over the glass, putting us down 5-on-3, you know, those kind of turnovers. Those are all mental, and I think that has to be better.
What do you anticipate from Vancouver?
Well, I looked over their last 5 games. They've outchanced the other team, I think, 28-20 in 8 chances. Their power play is really, really good. Like I said, with Besser back, now you've got 3 legitimate centers. They can create all kinds of offense for you. You know, and you know they come out real quick. They were out to a 3-0 lead last game. Their last few games I watched, their first period's been really good. They're deep. I mean, I don't know if there's a team in our league that you play that you look at and you really see, oh boy, you can exploit them there. Everyone's got strengths and weaknesses, and everyone in the league can beat everyone. And Vancouver's one of those teams that I think they could play with anybody on any given night.
Being in the last ones for top shots right now, is that something you need to address, or is that becoming an issue for you? Being part of your identity, blocking shots?
Well, there's two different ways to look at that. One, we have talked about when the puck gets to the top, we've got to block shots. But also when you look at who the leaders in block shots are, a lot of times it's the team that spends the most time in their zone is the team that blocks the most shots, because you're constantly under siege and you have to block shots to stay alive. So there's two different ways to look at that. I think we've been, last few games, we haven't spent a whole ton of time in our zone. But when it does get to the top, I expect everyone's going to block it. I think everyone knows the guys that do it. The Austin Watsons, the defensemen are willing to block it every time. If everyone's got to be desperate if we're going to get winning and we're going to get out of this thing. So that's fair. But like I said, I think there's two different ways to look at that. I don't know who leads the league in block shots. I didn't look at that. But I would say usually that is the case.
Les Vegas Golden Knights sont les meneurs pour les tirs bloqués, eux qui sont 18e pour le temps de possession. Mais sa théorie tient la route du fait que c'est un signe peut-être qu'on passe pas autant de temps qu'on le pense dans notre territoire. Parce que quand tu bloques des choses, parce que tu es plus souvent qu'à ton tour, un, pas en possession de la rondelle, mais deux, en train de te défendre. Donc, il y a du positif là-dedans, mais il y a des choses à améliorer, considérant que même si c'était pas nécessairement son forte, Brady Tkachuk n'a seulement qu'un lancé bloqué depuis le début de la campagne, comparativement à Tim Stutzla, qui en a 7, juste comme ça. Alors, ce serait peut-être le fun de voir le capitaine s'impliquer peut-être un petit peu plus. Des avantages numériques, ce qu'on veut voir, surtout, un, travailler sur l'aspect mental, plus de cohésion, puis faire moins de gaffe, être moins nerveux un peu. Vancouver, beaucoup de profondeur, il y a du potentiel, puis un avantage numérique qui est du tonnerre en ce moment. Une des choses qu'on veut améliorer aujourd'hui, c'est encore une fois de ficeler les périodes, protéger une avance, puis évidemment offrir un effort pour 60 minutes. Le coach en quartier qui va être ici, puis l'insertion d'un JBD ce soir.
Oui, mais tu sais, on a parlé de beaucoup de chiffres, puis on se promène sénateur, Canucks, puis tu sais, les Canucks, c'est bon, souviens-toi la saison dernière, Travis Green, remercié de ses services, 8-15-2, Boudreau s'amène derrière le banc, 32-15-10. On est à quelques points de retard seulement d'une place en séminatoire. Et c'est vrai, lorsqu'on parle de l'avant 1, la troisième période a toujours été... La première période est la plus productive chez les Canucks. Et là où c'est beaucoup plus difficile chez les Canucks, c'est la troisième période. 13 buts marqués, 22 buts alloués. Mais tu sais, quand tu parles de l'avantage numérique qui est un troisième ligne nationale, deuxième 30,2, bien malheureusement, l'infériorité numérique vient tout défaire avec un fait de taux de réussite de 60%.
Et pour ajouter, alors, cette dernière sur l'avantage numérique, le 11 en 24, c'est quasiment du 50%.
Oui, alors, tu sais, on dit souvent, évite de prendre de mauvaises pénalités, puis tu tenteras pas le loup, ça c'est un. Je pense, regarde, toi tu le sais, moi je le sais, puis le vestiaire le sait, là. Ils ont un bon power play. Non, mais ils ont un bon power play, ça on le sait, là.
Faut-tu vous l'écrire quelque part?
Non, mais il faut juste prendre des bonnes pénalités. Alors, moi, je reviens, on parle de la situation, les tirs bloqués, ainsi de suite. La seule chose que je peux te rajouter par rapport à cela, Nicolas, c'est que Tim Stutzla évolue en inférieur. Et si on aurait un pourcentage aujourd'hui au niveau des tirs bloqués dans la totale, je ne suis même pas surpris, on dit que 60% des tirs bloqués, c'est des situations en infériorité numérique.
Ouais.
Hein? Parce que tu as intérêt à te placer dans les différentes lignes de tir, surtout avec le joueur tampon, les tirs sur réception là, à la hauteur des top cercles, les défenseurs. Souvent, tu as un attaquant qui est positionné à ce niveau-là. Mais, on le dit souvent, le meilleur à la base, l'infériorité numérique, ça passe par ton gardien de but. Et là, les sénateurs, bien, tu mentionnais tantôt, il y a seulement 2 matchs en 11 cette saison qu'on a réussi à blanchir l'adversaire d'avantage numérique. Dans les 5 derniers matchs, on parle de la séquence d'insuccès des sénateurs, mais à chaque match, on a donné au minimum un but à l'adversaire en avantage numérique. Pendant ce temps-là, l'avantage numérique, aucun but à ces 3 derniers matchs. Aucun. Et pour moi, la défaite face aux Flyers de Philadelphie, c'est en deuxième période avec 9 minutes et quelques poussières en avantage numérique. Puis de passer proche, c'est correct, mais il a manqué, moi je pense encore une fois, on a manqué des ajustements où il y a eu des entêtements, on n'a pas corrigé le tir, où il y en a certains qui n'ont pas voulu corriger le tir au niveau de la surface glacée, et ça l'a coûté tout simplement au sénateur d'Ottawa. Mais Jacob Bernard-Docker, Tu sais, là, je te ramène, je regardais la charte de profondeur. Jacob Bernard, Docker, semaine, il va jouer aux côtés de Thomas Chabot. J'ai aucun problème avec cela. Je te rejoins dans ton commentaire hier dans le vestiaire en mentionnant. Ben oui, tu rappelles le bonhomme, puis tu prives l'équipe en bas. Si tu penses de ne pas le jouer, rappelle pas le meilleur d'en bas, là. Ben, rappelle une police. Appelle Etherington, là. Non, mais tu me suis, là.
Raison.
J'enlève rien à Etherington, mais c'est un joueur différent, là, tu sais, plus défensif, mais ainsi de suite. Alors, bon, ça, c'est la première des choses, mais des fois, on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants. Qu'on l'amène à côté de Chabot, j'ai pas de problème. Là, on parle d'un défenseur de 22 ans. Pour moi, ce que ça m'amène à dire, c'est que présentement, là, les lignes qu'on lance à l'eau, là,
oups, ça pointe pas.
C'est comme un mouche. Ça revient. Ça revient. Puis, tu sais, la corde un peu, puis ça revient. Mais non, parce que sinon, Nicolas, on ne sait pas dans cette situation-là au moment où on se parle. Je ne connais pas les échéanciers dans le cas d'Arton Zoom, mais là, on parle qu'il devrait être du prochain voyage. Est-ce qu'il va jouer? Ça, c'est tout autre. Et l'autre facteur, mais pourquoi je voulais te parler de Jacob Bernard-Docker? C'est que là, on parle d'un défenseur de 22 ans. Jake Sanderson, 20 ans. Eric Brandstrom.
Ouais.
Et quel âge?
23.
Oh non, mais on attend. Non, mais tu sais, je te dis, quand on parle de Bernard Docker, on monte un jeune défenseur.
Ouais.
Brandstrom, hein, 23, là.
Ouais,
alors, regarde, moi, j'ai pas de problème. De toute façon, ou d'une autre, tu le sais, ton opinion, mon opinion, elle rejoint tout le monde. Tu sais, dans le cas de Zatsev, là, c'est à cause du contrat qu'il est encore ici, là. Alors, tant qu'à donner du vécu, du millage, de l'expérience, mais aussi bien de la donner à un plus jeune.
On se reparle dans l'avant-match du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, le coach avec nous autres pour la soirée, alors qu'on vous présente le hockey Véronique Lossieur des Sénateurs, les Sens contre les Canucks. Poursuivons la discussion hockey avec Renaud Lavoie qui nous attend. Renaud, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi, Nicolas.
Ça va très bien, merci. Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu sur le dossier Mitchell Miller?
Oui.
Si tu le permets, c'est un fiasco à bien des endroits. Puis on a entendu évidemment les Bruins avec son président Cam Neely faire son mea culpa. Ton impression sur ce qui s'est passé au cours des dernières 48 heures là-dessus? Là?
C'est épouvantable. T'sais, les gens disent, que ce soit Cam Neely ou les autres, tu as le droit à avoir une deuxième chance dans la vie. J'espère que tout le monde qui nous écoute pense la même chose, que oui, on a le droit avoir une deuxième chance dans la vie. Mais il faut que tu fasses un processus pour obtenir cette deuxième chance-là. Puis ce processus-là doit être fait, je ne veux pas dire publiquement, commencera pas à se filmer en train de faire le processus. Mais si tu veux être réintégré dans le monde du hockey, il faut que le processus soit fait en bonne et due forme. Le problème de ce kid-là, c'est que l'équipe qui le repêche, soit les Coyotes de l'Arizona, décide de le mettre aux poubelles. Eux autres, ils ont décidé qu'ils réglaient le problème en prenant un kid repêché et l'envoyant en disant, nous autres, finalement, on laisse tomber ce kid-là. Tu as le droit de laisser tomber ce kid-là. Mais tu prouves que tu es une organisation tout croche. Parce que, un, tu n'as pas fait ton due diligence. Puis deux, tu n'as pas le goût non plus de travailler avec le kid pour qu'il s'en sorte.
Ouais.
Donc, dans le fond, pour toi, c'est rien que c'est un numéro, là. C'est pas vraiment important, là.
L'aspect humain a pris le bord.
Pas mal. Parce que tu as besoin d'institutions aussi. Tu as besoin d'être guidé. Tu as fait une erreur majeure. C'est dégueulasse ce que tu as fait. Répugnant. La liste de mots est pas assez longue, je pense, juste pour faire le tour de comment je me sens quand je lis ce qui est arrivé. Bon. Mais à partir de ce moment-là, là, est-ce que c'est une fin? Est-ce que ça arrête là? Ou est-ce qu'on décide, le jeune décide de se prendre en main et de démontrer, pas seulement à la Ligue nationale de hockey, à la victime, famille de la victime et au reste du monde, qu'il peut devenir, qu'il peut non seulement devenir une meilleure personne, qu'il est une meilleure personne.
Parce que c'est ça vraiment l'imbroglio dans tout ça, c'est qu'on n'a pas déterminé qu'il avait démontré assez de volonté pour se réhabiliter dans cette...
C'est excusé sur Instagram il y a 2 semaines.
Ouais.
C'est pas ça, là. C'est pas comme ça que ça marche la vie, là.
Et je comprends, puis j'ai terminé mon émission hier, puis sans vouloir défendre le kid, puis écoutez-moi bien, là, je veux pas défendre le kid, c'est pas ça que je dis, là. Mais à quel moment on décide que le kid a le droit à une deuxième chance? Puis la Ligue, tant qu'à moi, là, Renaud, l'impression que j'ai, là, c'est comme, on n'en veut pas de cette affaire-là, puis de ce dossier-là, puis non, il n'y a pas d'affaire ici. Mais si la Ligue gratte un peu le bobo, il y a une maudite gang, puis je mens pas à personne en disant ça, il y en a une gang des effectifs en ce moment qui pourrait peut-être regarder et dire, pas sûr que je réussite, moi. Puis,
non, mais
tu comprends ce que je veux dire, Renaud?
Non, ben écoute, je te rejoins, là. Je veux dire, c'est, on est dans un autre monde, hein. C'est autre temps, autre mœurs, là. Je veux dire, c'est sûr que... Bon, c'est un gars, Craig McTavish, il a toujours bien tué quelqu'un en état d'ébriété.
Bon.
Il travaille encore dans la Ligue nationale. Là, tu vas me dire, autre temps, autre mœurs. Bon, OK. Mais au-delà de tout ça... Je pense qu'on est dans une ère où tu dois faire patte blanche. Tu dois montrer patte blanche. Ouais. Tu dois démontrer clairement que tu as fait des erreurs. Comment tu fais ça? Tu le démontres avec des actions claires, nettes et précises. Des actions qui vont faire en sorte que la famille des victimes, de la victime ou des victimes, vont accepter tes excuses. OK? Après ça, bon ben, c'est sûr qu'il y a malheureusement, mais c'est la réalité d'aujourd'hui, dans l'ère médiatique dans laquelle on est, médiatique et réseaux sociaux, ben il faut aussi que tu fasses ton mea culpa publiquement. Il faut aussi que tu donnes une entrevue pour passer à travers du processus. C'est comme ça que je te dis pas que l'entrevue est plus importante en passant que tout le processus de travail à faire avec la ou les familles des victimes. Pas du tout, là. Ça, c'est la chose la plus importante. Ouais. Mais si tu veux que le monde, les partisans, peu importe comment tu veux les appeler, les gens qui écoutent, si tu veux les convaincre, il faut quand même que tu le fasses de façon publique. OK? C'est là où le problème, pour ça, je reviens à ma prémisse de départ, des Coyotes de l'Arizona, l'organisation de broche à point. Au lieu de travailler avec le kid, décide d'agir en... En tout cas, c'est écœurant quand les mots qui me viennent quand je pense à eux autres. Mais ça, c'est un autre dossier.
Puis qu'on pense surtout à la victime dans tout ça, là, puis son nom, c'est Isaiah Meyer Crothers. Puis sérieusement, puis c'est pour ça que je veux pas défendre Mitchell Miller. Là. Puis il faut penser surtout à cette personne-là précédemment, puis en priori. Mais où est-ce qu'on va tracer la ligne, puis où est-ce qu'on va pouvoir justement encadrer ce gars-là pour le réchapper, puis pour en faire une meilleure personne?
Ça va arriver. Hein. C'est sûr que ça va arriver. C'est sûr. Et d'ailleurs, ça doit arriver. D'abord et avant tout, pour que ce dossier-là se règle une fois pour toutes, parce que la famille, la victime, je leur passer à travers ça encore. Là.
Ouais.
Parce que le processus n'est pas... Le processus d'excuse n'est pas fait. Mais ou s'il est fait, il est mal fait. Il n'est pas fait dans les règles de l'art. Il y a des choses à faire clairement pour démontrer qu'on est une meilleure personne. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, oui, à la deuxième chance, comme tout le monde, mais d'une façon professionnelle. D'une façon, quand je dis professionnelle, je veux pas dire qu'elle doit être faite par des avocats. Encadrée et surtout que ça soit vrai.
Ouais.
Les Anglais utilisent le mot genuine.
Ouais. Ça vient de la bonne place.
Ça vient du cœur. Alors, et non du portefeuille. Ah, je veux être millionnaire, je veux te régler ça.
Devant nous, là, on a les deux Zamboni, puis je sais pas s'il y a un problème, mais il y a deux Zamboni qui ne passent pas l'Atlas, mais ils ont de l'air à gratter, puis il y a une flaque d'eau sur l'Atlas en ce moment. Puis il y a bien des gens qui s'affairent autour. Alors, je me demande s'il n'y a pas un bris quelque part, là. Mais j'espère que c'est pas ça.
Des choses qui arrivent. J'ai déjà vu, moi, une Zamboni comment on appelle ça? En tout cas, le bidon d'huile.
Oui, éventré bidon, avec son liquide, son fluide hydraulique. Tout rouge. Écoute, je veux m'attarder justement sur les visiteurs d'aujourd'hui, les Canucks de Vancouver. Parce que en ce moment, on semble voir que le torchon brûle entre la direction actuelle et son entraîneur-chef. Aujourd'hui, Bruce Boudreau n'a pas mâché ses mots pour répondre à Jim Rutherford, qui la veille avait dit que pour lui, il critiquait, un, la structure de son club, mais il critiquait cette structure-là depuis le début du camp d'entraînement. Considérant que Bruce Boudreau n'a pas été engagé justement par la direction actuelle, est-ce qu'on est en train d'avancer justement des arguments pour congédier M. Boudreau, là?
Bruce a dit quoi?
Ben, il dit, écoute, là, il n'y a personne qui peut douter de l'effort de ces gars-là. Puis, qu'on parle de structure, vous comprenez, je veux dire, il a pas voulu invectiver personne directement, comme Rutherford n'a pas nommé son entraîneur. Mais, de façon interposée, on s'est donné une coupe de jab.
C'est cute, hein? Ça va bien? Les joueurs doivent regarder ça et se dire, waouh, ça va être le fun cette année. C'est triste. Non, mais je veux dire, il n'y a pas une autre façon de le dire. Tu sais, Jim Rutherford, c'est laissé lousse, comme on dit, en bon français. Lâche et lousse. Je trouve ça dommage pour tout ce monde-là. Je trouve ça dommage parce que ça va pas bien pour les Canucks. C'est une équipe qui ne répond pas aux attentes, comme tout le monde le sait. Maintenant, on s'en va où avec ça? C'est ça la vraie question. C'est une organisation qui, on dirait, est pas capable de prendre le rythme ou encore de prendre les bonnes décisions. On a changé le directeur général, ça n'a pas changé grand-chose. On a Jim Rutherford et là, ça change absolument rien. Bruce Boudreau, bon, il nous a fait rêver un peu l'an passé avec une série de victoires, mais en bout de ligne, le mal, c'est le même virus, c'est le même problème. C'est pas réglé. Écoute, c'est plate que ces choses-là arrivent, mais sais-tu quoi? Ça, c'est comme un abcès, comme un bouton. Il faut que ça pète. Il faut que ça se règle. Il faut qu'on arrête de pas vouloir régler le problème, de mettre des pansements à gauche puis à droite en pensant que ça va s'arranger. Parce que, tu sais, ils ont des bons jeunes, des bons joueurs dans cette équipe-là, mais on dirait qu'année après année, c'est toujours le même problème depuis quelques temps. Comment ça va se régler? Je pense que le scénario, on le connaît. Là. Bruce Boudreau, éventuellement, va perdre sa job. À moins que les joueurs décident de jouer pour lui, puis qu'ils décident justement là, de dire, « Hey, Bruce, on t'aime, on veut pas que tu t'en ailles, puis crème, on va gagner pour Bruce. » Tu sais, le genre de ra-ra-ra.
Ouais, le ralliement.
Mais,
le ralliement.
Le ralliement, mais ça dure un bout. Là, tu sais, ça peut pas durer 5 ans. Là. Donc, je sais pas. J'ai été surpris hier de ces commentaires-là. Puis, c'est pas quelque chose qu'on entend et qu'on voit à tous les jours, sans aucun doute. Mais en bout de ligne, ça devait arriver. Puis là, maintenant, ben, ça appartient, c'est bien plate ce que je vais te dire, ça appartient pas à Bruce Boudreau, puis ça appartient pas à Jim Rutherford. Ça appartient au vestiaire.
Ouais.
Si c'est un massacre ce soir, puis qu'ils se font traverser, ben, dites-vous qu'il y a un message qui est lancé. Puis si ça dure comme ça pendant un bout de temps, ben, ça va durer comme ça pendant un bout de temps. Nous, on l'a vécu à Montréal. On l'a vécu l'an passé à Montréal. Évidemment que Marc Bergevin n'était pas sorti publiquement contre son coach. Au contraire, il avait toujours protégé, mais les joueurs avaient abandonné Dominique Ducharme complètement abandonné. Comme j'ai jamais vu. Là. Alors, est-ce qu'on va revivre le même scénario? Quel scénario va-t-on vivre à compter de ce soir avec les Canucks? Est-ce que c'est l'abandon ou le ralliement? On va avoir la réponse autour des 21h30 ce soir, mon cher ami.
T'as bien raison. Il y en a un qui semble pas justement jeter la serviette. C'est le directeur général ici à Ottawa, Pierre Dorion, qui a dit hier en anglais que lui, pour lui, c'est pas un vote de confiance parce qu'on n'a pas besoin de ça, parce que son homme, c'est bien DJ Smith. Est-ce que tu prends ça comme le baiser de Judas ou tu prends ça avec un grain de sel? Ou...
Ben, ils sont mieux de commencer à gagner des matchs, les sénateurs. Je veux dire, on en a parlé ensemble au début de la saison que la chose la plus importante, c'est de connaître du succès rapidement en saison. Les sénateurs perdent leurs deux premiers matchs, gagnent leurs 4 suivants. C'était le fun, c'est de la façon qu'ils ont gagné. Puis après ça, ça recommence à glisser. Mais, Cam Talbot n'était pas là. Là, Cam Talbot revient. Et là, moi, je pense que c'est là que ça se passe. C'est que tu peux pas dire à un entraîneur, écoute, tu vas avoir des blessés dans ton line-up là, en début de saison, mais tu vas être jugé quand même comme s'il n'y en avait aucun blessé, surtout à la position de gardien de but. C'est malhonnête. Tu vas me dire, ouais, mais Renaud, Dominique Ducharme l'an passé, ça a été la même chose avec Carey Price. Peut-être, là, mais je veux dire, je pense que c'était la façon dont l'équipe jouait dans, globalement. On ne peut pas dire que les Sénateurs d'Ottawa, globalement, ont abandonné DJ Smith. Au contraire, OK? Je pense que DJ Smith, c'est quelqu'un qui est très respecté par les joueurs. Bon, maintenant que Cam Talbot revient, là maintenant, je sais que ça va prendre, tu ne peux pas dire à Cam Talbot d'un matin, let's go sauveur, arrête. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais mettons qu'on se donne un autre 10 jours. Là. Bon, 2-3 départs. Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, on va voir les vrais Sénateurs d'Ottawa? Moi, je pense que c'est là que ça se passe. Là. L'évaluation va être faite à partir de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines.
Pierre Dorion a dit que les 10 prochains matchs allaient être névragiques, on s'entend. Puis comme ils le sont. Mais la question piège en ce moment, là, tu en as un de jouer parce que tu as perdu samedi. Fait qu'il en reste 9. S'il fallait que ta fiche soit seulement en bas de 500, on va dire seulement 4 victoires, ton threshold, ta barre, ta trace où? C'est quand que tu, d'après toi, le Pierre Dorion va agir, s'il doit agir.
Il faut que tu fasses attention aussi, Nicolas. Je vais t'expliquer pourquoi il faut que tu fasses attention. Si l'équipe joue bien et perd des matchs, là, tu comprends ce que je veux dire?
Oui, ouais. Avec structure, puis au moins on se donne une chance.
Elle joue bien et perd des matchs, là, tu dis, hey, c'est pas cool. Non. Il faut que tu vois l'engagement des joueurs, la détermination des joueurs, selon moi, cette fois vraiment de tout. Tout passe par là. Et un peu l'inverse, en même temps, là, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Ça veut dire que si les Sénateurs ont une fiche de 6 ou 7 victoires, mais là-dedans, que c'est les gardiens de but qui ont volé les matchs, après, visiblement, que les joueurs, ça leur tentait pas trop de jouer, ben, il y a aussi des questions à se poser à partir de ce moment-là. C'est pas parce que la fiche est bonne que les choses vont bien. C'est de la façon dont l'équipe se comporte. Le directeur général va toujours évaluer, avant de prendre une décision par rapport à son entraîneur, la façon dont ses joueurs se comportent. Ont-ils besoin d'une étincelle, d'un nouveau message? Ont-ils besoin d'un vent de renouveau? Des fois, c'est oui. Des fois, c'est non. Parce que s'ils jouent bien et ils ont seulement 4 victoires, là, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va débloquer. C'est sûr. La loi de la moyenne le dit. S'ils jouent mal et ils ont 7 victoires, oh là là, pas bien ben mieux. Là, tu peux pas congédier ton entraîneur, tu vas dire à 7 victoires. Mais je vais dire quand la série de défaites va arriver parce que ça en vient, là, c'est là que tu vas être obligé de prendre une décision. Tu sais, il faut faire attention, là, DJ Smith, c'est un bon coach. Il fait les bonnes choses. Je pense qu'il s'est grandement amélioré au cours des années, en passant, là, depuis son arrivée à Ottawa.
Oui.
Et là, maintenant, ben, c'est à croiser des chemins. Parce que c'est une équipe qui est à vendre, là. Oublions pas. Faut pas l'oublier.
C'est une équipe qui doit produire.
Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de, je pense pas que, les 10 prochains matchs, mettons les Sénateurs en gagnent 7 matchs, ben ça va coûter plus cher acheter les Sénateurs ou s'ils perdent les 7 prochains matchs, que ça va coûter moins cher les Sénateurs. On n'est pas là, on n'est pas du tout là-dedans. Mais ça reste quand même, tu sais, on s'entend là, il y a 3 ans, il y a 3 saisons, ce club-là dépensait 63 millions de dollars sur sa masse salariale, puis aujourd'hui, on en dépense 16 de plus. Dis-moi pas que le processus de vente n'a aucun rapport là-dedans. Il y a grandement rapport là-dedans. Si l'équipe n'était pas à vendre, on ne serait pas à 79 millions la masse salariale. Alors, tout ça est un peu, d'une certaine façon, relié, mais je le répète, les victoires ou les défaites ne changeront rien sur le résultat final du processus de vente.
Jim Mercy, le propriétaire des Colts, a appelé Geoff Molson pour lui demander sa recette parce qu'il a effectivement pris la recette du Canadien en engageant Jeff Saturday, un gars vert comme vert, pour coacher son club. Je ne sais pas si ça va donner la même affaire, par exemple.
Oui, bien lui, il a coaché 3 ans au secondaire.
Oui, secondaire,
c'est ça. Mais là, la grande, immense différence. Martin Saint-Louis, il arrive. Le jeu de hockey, c'est un jeu qui est en continu, qui est en mouvement. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'arrêts. La NFL, ben c'est que le corps arrière ou encore le défensif travaille avec des données, des jeux précis. Là. C'est pas ready, set, up, partez à courir, puis si j'en vois un... C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Pas Omaha. Là. Non. Pas de même, ça marche. Là. C'est là où il y a un problème. C'est que Jeff Saturday, il arrive, il connaît pas le playbook, il connaît pas le livre. Là. Puis, je veux dire, là, c'est sûr qu'il passe ses journées à juste faire ça, mais bonne chance. Là. Par contre, il va amener l'espoir, il va amener un message aux joueurs pour relancer cette équipe-là. C'est ça qu'on va amener.
On souhaite pour les causes que Jeff Saturday soit bon Sunday. On s'en parle pour le prochain. Pas pire, hein? On s'en parle jeudi, nous autres, puis bon match ce soir du Canadien contre les Red Wings. Salut, mon chum! Bye-bye! Messieurs, pour nous, est-ce qu'on a le temps pour passer? Un, est-ce qu'elle est longue, l'audio de JB Lee? 2 minutes? On a-tu le temps? Mick Lafleur, aux tables tournantes, va nous préparer ça. JB Lee, à qui on a parlé hier sur ce qu'il veut voir personnellement de son jeu avec Thomas Chabot, la synergie. On a entendu DJ Smith tantôt parler justement que Bernard Docker doit être plus responsable parce que laisser justement la priorité à Chabot pour qu'il puisse s'élancer en offensive. Lui, c'est évidemment de faire attention qu'on n'ait pas de revirement coûteux. Puis également, on aimerait le voir diriger un petit peu plus de lancers au filet. Il y a une touche offensive, certainement. Puis ça, c'est une chose qui achète pour les Sénateurs, côté offensif, c'est que la défensive lance pas assez souvent sur le filet adverse. Alors, une chose qu'on va surveiller ce soir, Jacob Bernard Docker, hier, après l'entraînement, s'exprimait sur son insertion ce soir. Écoutons JBD.
Yeah, he's always a treat to play with. I think it's kind of like picking low-hanging fruit playing with him. It's always easy and it's a lot of fun.
What do you remember from the game action you guys got together last year?
I mean, I think just knowing his tendencies. I know he likes to jump in the rush and obviously a great skater. And, you know, if I'm able to put the puck in his hands and, you know, maybe help him out. And I think for us it's just talking. I think he's obviously a great player for me. You know, not playing a ton of games in this league yet. It's just... talk it out with him, you know, kind of learn what he likes to do. So.
Kind of an opportunity is there for you if you do get a couple games with him?
Yeah, it's always a great opportunity. I mean, any day you can spend in the NHL is a great day. I've said that before. And getting the opportunity to play with Shabby is something I don't take for granted, and you know, something I'm going to try to take advantage of for sure.
Do you feel like this is a chance for you to stick around for a while here, like to stay here permanently?
I mean, I think that's always the goal for me. Anytime you get called up, I think that's the goal, is to try and stay. You know, my job is just to go out there and perform the best I can, and the rest of those decisions are out of my hands. So I think that's always the goal for sure.
How do you feel like your game has grown since you first stepped on the ice with this team?
I think just knowing the systems, what DJ likes, you know, how the coaches want to do things, that kind of thing. You know, I think coming into new systems is always probably the biggest thing for a player, and just learning those. And, you know, I think this year I've definitely become more comfortable with those.
Can you give us an idea of how much your game grew this season compared to last season?
How much it grew?
How much your game grew?
Yeah, I mean, I think for me that's the biggest thing, is just taking those steps. And I know it's a process, and, you know, I don't expect to just come in and, you know, play extremely well right off the bat. I think it's something that, as a young D-man in the league, you got to learn how to do things. And I think in Belleville, it's, you know, it's helped me out a ton, working with the coaches down there and just learning little things and details with my stick and my skating. So I think it's definitely grown a lot over the last year.
Le 24 des Sénateurs, Jacob Bernard Docker, qui fera ses débuts cette saison avec le gros club jumelé à Thomas Chabot. Il a peaufiné son jeu, les petits détails, son jeu avec le bâton, sans et avec la rondelle, beaucoup plus confiant qu'auparavant. Il y a toujours une occasion pour demeurer ici de façon permanente. En voilà une autre ce soir. On va voir si on aura des atomes crochus avec le 72. Au retour de la pause, on poursuit l'émission Écourtée du vestiaire, la meilleure émission de sport francophone dans la capitale. Il y a du basketball avec Rosanne Joly, mais tout d'abord, on parle football. Au retour avec Marc Schreiber.
Les écoles catholiques du Centre-Est souhaitent recruter la prochaine génération de directrices et de directeurs d'école. Joignez-vous à l'équipe de professionnels passionnés du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et profitez de conditions salariales concurrentielles et de multiples occasions de perfectionnement, tout en œuvrant pour le chef de file en éducation. Consultez le écolecatholique.ca/carrière pour poser votre candidature dès maintenant.
Bon, ça c'est votre salon. Ça, c'est la cuisine. Il y a du tapis, de la carpette, les vitres sont neuves, les électros sont inclus. Je sais pas quoi là, je vais à la maison. Il n'y a pas de négociation, puis j'ai 20 minutes pour vous. As-tu des questions?
Vous désirez trouver le service qui vous convient? Alors choisissez une courtière à l'écoute, intègre et surtout dévouée à vous aider. Ne pas choisir Véronique Lecière, c'est comme ne pas avoir de défenseur. Pour tous vos besoins en immobilier résidentiel et commercial, je suis à votre service. 819-664-3308.
Vous vous ennuyez cet automne? Rien d'intéressant pique votre intérêt? Venez consulter la liste des activités offertes par le MIFO. Ici, il y a divers événements jusqu'à la fin de l'année. Des ateliers de peinture, des pièces de théâtre et beaucoup plus. Venez vous divertir au MIFO. Trouvez plus d'informations au mifo.ca.
Vous cherchez une activité intéressante afin d'occuper votre fin de semaine? Ça tombe bien! Participez au bingo de Unique FM tous les samedis à 10h. Il y a 1 450 $ à gagner. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors soyez présents.
Salut, ici Derek Brassard. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
Derek Brassard qui sera inséré dans la formation avec Patterson et DeBrincat sur le deuxième trio. Grosse soirée, on l'espère, pour le 61. C'est Véronique Lecœur qui vous propose le hockey des sénateurs des 19h. Faut pas oublier l'avant-match du CECCE vers 18h30. Mauvaise nouvelle pour les fans des Bills. Je n'ai pas regardé les derniers développements, mais il y a Josh Allen qui, hier, a subi des examens pour son coude. Le coude qui sert pour lancer. Puis ça, c'est pas une bonne affaire après un contact hier en fin de match. Alors, il a été blessé légèrement. Il disait que c'est pas grave. Mais tout de même, le fait de voir subir des examens, c'est jamais une bonne affaire. On parle de football avec notre ami Marc Schreiber qu'on va rejoindre tout de suite. Marc, comment vas-tu?
Ça va bien. Écoute, moi, en plus, à chaque fois que tu mets la thématique de notre chronique au départ, là, j'ai le goût de mettre des épaulettes en jazz.
Ah, avoir 30 ans de moins, hein? Eh, maudine. Moi, tout, j'aimerais ça. Si on parle du match du lundi soir hier, t'as aimé le spectacle?
J'ai aimé le spectacle, puis écoute, tu sais, il y a des gens dernièrement qui disaient, les gens qui suivent beaucoup la NFL, ah, peut-être qu'on commence tranquillement pas vite à avoir moins d'efficacité de la part de Lamar Jackson, qui est passé il y a quelques années. Ben, hier, quand tu l'observes comme faux dans leur victoire de 27-13 contre les Saints, premièrement, ils ont eu possession du ballon pendant 40 minutes, deux tiers du match. Pourquoi? Parce qu'il est patient, il court beaucoup avec le ballon, puis il y a toujours cette triple option-là qu'on lui offre. Tu sais que souvent, les jeux, on lui donne ce qui s'appelle un zone read, c'est une lecture. Donc, il y a un porteur de ballon qui passe devant lui, mais il regarde si le front défensif il est en sa faveur pour un jeu au sol. Il sait où il va y remettre. Sinon, il retient. Là, il va déborder vers l'extérieur. Il peut lui-même courir, puis il est vraiment bon. Mais il peut encore toujours passer le ballon parce qu'il y a des receveurs de passe qui exécutent toujours un trajet de passe en fonction de ça. Donc, même ses propres joueurs ne savent pas qu'est-ce qui va se passer sur le jeu. Et donc, c'est vraiment exceptionnel de le voir. Puis hier, il était au sommet de son art.
J'ai l'impression aussi qu'au cours peut-être de la dernière, puis peut-être même des deux dernières saisons, Jackson avait diversifié un peu sa couleur de palette, puis courait un petit peu moins. Puis le fait qu'il recommence à courir comme ça, puis d'être efficace, ça déstabilise un peu les plans de match. Je ne sais pas si je vais trop loin dans ce que je dis dans ma réflexion, mais tout de même, c'est une chose à surveiller.
En tout cas, ce que tu dis, Nicolas, clairement, là aussi, il ne faut pas oublier que c'est long une saison. Puis à un moment donné, il doit des coachs ou des physiothérapeutes ou des médecins qui lui disent qu'il faudrait peut-être lancer le ballon un peu plus, là, parce que tu ne passeras pas à travers. Puis tu viens de parler de Allen, le carrière des Bills. Puis lui, là, aussi, il est très agressif dans son jeu. Il aime ça courir, il aime ça être frondeur. Ben, tu mets la saison de l'équipe en jeu quand tu es le joueur pivot de l'équipe, là.
Cinq choses qu'on a retenues dans la fin de semaine qui vient de se terminer pour la NFL?
Ben, en tout cas, si on parlait de gens qui peuvent nous surprendre, il ne faut jamais dire que Tom Brady est mort. Et lui, en une minute, il peut changer un match. C'est rien vraiment passé tout le match. Par contre, ils étaient dans le match. Ils sont allés chercher une victoire. Ben, regardez ça, ça y a pris 44 secondes de remonter tout le terrain. Trois jeux de passe. Le toucher était marqué et ça prenait quelqu'un qui a le sang-froid comme lui, qui a fait ça des tonnes et des tonnes de fois. Fait qu'encore une fois, comme quand on pense qu'un joueur peut-être a fait ce qu'il avait à faire dans cette ligue-là, parce qu'on sait qu'il est le plus vieux de la gang, ben il nous surprend avec une série offensive comme il faisait il y a 20 ans.
À part de ça, il y a certainement un coup de cœur que tu as eu en fin de semaine. Ah. Ça serait lequel pour toi?
Ben le match que je t'avais mentionné, que j'avais hâte de voir, c'était Tennessee contre Kansas City. Kansas City qui a remporté en prolongation. Mais pourquoi? Ben, parce que Tennessee, là, ils vivent en courant avec le ballon. Le jeu est taxé, ce jeu au sol. Puis Kansas City, c'est l'inverse. Ils vont tenter 60 passes par match. Puis finalement, ce qui a fait la différence, c'est les quelques fois où Mahomes a pu s'échapper le carrière de Kansas City. Il a couru pour des premiers essais ou des longs jeux. Et c'est donc surprenant. C'était pour moi le match coup de cœur parce que, oui, c'est vrai qu'ils ont sorti leur force durant le jeu. Mais pour moi, j'ai été surpris de voir que finalement, ce qui a fait la différence, c'est les jambes de Patrick Mahomes dans ce match-là.
Non, ben alors qu'il y avait des questionnements à savoir si on serait capable de maintenir le rythme dans cette grosse offensive-là, il n'y a pas si longtemps, surtout avec le départ de Tyreek Hill, puis de voir le gars courir de cette façon-là quand son offensive fonctionnait nullement, puis de revenir de l'arrière encore. Je vous dis que les Chiefs, c'est encore une équipe à surveiller pour le gros Super Bowl. On voit cette équipe-là comme une équipe au Super Bowl, les Bills. Cependant, cette défaite-là, est-ce qu'elle nous confirme que c'est pas au beau fixe? Puis on a encore des choses sur lesquelles on doit travailler si on veut aspirer aux grands honneurs pour les Bills.
Ben, c'est la troisième chose qui a retenu mon attention. Les Jets puis Buffalo qui jouent un contre l'autre. Des belles saisons jusqu'à maintenant. Les Jets l'emportent 27. Mais moi, ce que ça m'a prouvé surtout, c'est que les Jets, c'est vraiment une équipe forte. On se demande tout le temps, parce que ça prend du temps avant que tu aies la chance de jouer contre plusieurs équipes à un match par semaine. Mais là, depuis quelques semaines, ils rencontrent des équipes de premier plan qui sont capables non seulement d'être dans le match, mais d'aller chercher la victoire. Puis, sais-tu qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas leur statistique offensive. C'est la couverture homme à homme de la défensive des Jets contre les receveurs de passes adverses. Écoute, c'était le genre de choses que tu veux montrer à des jeunes comment faire correctement. Mais c'est eux qui l'ont appliqué. Et donc, chapeau aux Jets. Et maintenant, on peut considérer que c'est une équipe sérieuse.
Puis là, on a reçu la confirmation que pour Allen, c'est un cas incertain pour le match contre les Vikings de ce dimanche. Alors, la Bills Mafia est en train de sortir les lampions. Quatrième sujet pour la NFL, il y a le Québécois Benjamin Saint-Just, pardon, qui faisait partie de la formation en fin de semaine.
Écoute, c'est particulier. Lui a joué son... Les gens connaissent quand même la région du côté de Gatineau, connaissent le programme collégial, le football collégial et cégep, c'est très fort au Québec. Ben lui, il a joué ça au Vieux-Montréal. Il est allé jouer universitaire par la suite américain, mais c'est un...
Il joue avec les Commanders,
québécois. Exactement. Puis lui, il joue avec Washington. Il est demi de coin, partant, première des choses. Mais en plus, j'ai remarqué qu'on le fait jouer du côté du terrain où il y a les meilleurs receveurs de l'équipe adverse. Une autre preuve, Nicolas, on en a souvent parlé, que non seulement il y a maintenant quelques Canadiens qui réussissent à se faire une place dans la NFL. Non, non, non. On est maintenant des joueurs établis de plus en plus qui font une différence dans les matchs.
Oui, tout à fait. Puis ça, c'est un leg et de la qualité des programmes qui ont été établis au Canada, puis clin d'œil aux entraîneurs de qualité, puis dont tu fais partie. Alors, chapeau à toi, mon cher ami. Tu fais partie de cette solution-là. Quand on marque dans la zone payante, qu'est-ce qui arrive?
Ben, tu sais, les Phillies, c'est la seule équipe invaincue encore, hein?
Les Eagles parlent.
Les Eagles. Oui. De Philadelphie. Puis quand tu regardes leurs statistiques, c'est pas nécessairement, tu sais, les statistiques offensives et défensives, ça sort pas de l'ordinaire, sauf une. À chaque fois qu'on réussit à s'approcher de la ligne de 30 adverse, 25, la fameuse zone rouge payante, on fait toujours des points. C'est quasiment 100% d'efficacité. Et donc, c'est comme si à chaque fois au hockey, qu'on avait un échappé ou un 2 contre 1, il y a toujours un but de marquer. Et donc, non seulement ils sont opportunistes, mais ils savent marquer quand c'est le temps. C'est une des raisons majeures pour laquelle je pense que c'est la meilleure équipe présentement au niveau du résultat, en tout cas.
Tournons-nous vers la Ligue canadienne de football et s'il y a une phrase qui revient pour le merveilleux sport du football, c'est celle en anglais « Any given Sunday » parce que c'est un match et tout peut arriver. Et cette donne-là s'est appliquée en fin de semaine, selon toi.
Ah, c'est appliqué parce que, premièrement, c'est les demi-finales de conférence. Hein, donc, il y en a eu une à Vancouver dans un stade tout chaud. Puis, il y en a eu une à Montréal où la journée a commencé puis il pleuvait là, à bord debout puis ça s'est calmé. Mais je peux te dire que ça va se transformer dans la prochaine semaine parce qu'on est dans la Ligue canadienne de football. Les températures à travers le pays ont complètement changé. Et ça, c'est une réalité de cette Ligue-là qui joue en juin, juillet, août, dans des chaleurs de 30, 35 degrés, puis qui finit ses matchs les plus importants dans le gros froid et des fois dans la neige. Mais le Any Given Sunday, je te l'envoie comme remarque parce que, franchement, on n'a rien vu de la part des Alouettes cette année, vraiment. On a connu des bonnes séquences, on a joué à peu près pour une saison de 500 dans une division qui n'était pas hyper forte. Mais il y a des joueurs qui se sont levés. C'est des partisans des Alouettes dans la région de Ottawa-Gatineau. Vous avez été bien servis parce qu'à l'attaque, on a eu une première demi exceptionnelle. Ensuite, la défensive s'est levée avec plein de pression, des sacs du corps. Puis tout le long du match, on a eu des super de retours de beauté. Et donc, même si des fois, tu ne sais pas à quoi t'attendre, un seul jour, un seul match, il suffit que 7-8 joueurs décident d'exécuter. Et là, tout change, c'est ce qui s'est produit pour eux. Puis dans l'Ouest canadien, Nicolas, la demi-finale de conférence, Vancouver, les Lions ont gagné 30-16 contre Calgary. Écoute, on parlait pendant des années d'un corps qui s'appelait Bo Levi Mitchell. Hein? On a souvent nommé ce nom-là là, à Calgary. Il a lancé le ballon pour 147 verges. On l'a complètement réduit à pratiquement rien au niveau de son attaque. Et chapeau à Rick Campbell, l'ancien entraîneur-chef du Rouge et Noir d'Ottawa, qui, lui, a changé complètement cette équipe-là en quelques saisons. Et là, il faut les considérer comme étant des gens qui peuvent se rendre jusqu'au bout.
Ouais, parlant de Bo Levi Mitchell après la rencontre, on semble déjà être passé à autre chose. Il s'est dit excité pour la suite de sa carrière qui ne devrait pas se passer avec Calgary. Alors, peut-être un quart arrière disponible pour la suite des choses. Clin d'œil peut-être au rouge et or, au rouge et noir, pardon. Parlons un peu du football universitaire, puis qu'est-ce qui s'est passé en 20 semaines pour nos clubs régionaux?
Tout d'abord, Carleton n'était pas déjà fini sa saison parce qu'on ne s'est pas rendu en demi-finale de Conférence Ontario. Les GGs, eux, étaient en demi-finale de la Conférence Ontario, mais devaient se rendre à l'Université Queen's à Kingston. On le savait que c'était un grand match, puis Queen's a gagné 35-13. Et c'était la même chose. On n'a pas réussi à vraiment présenter une opposition quand on a joué contre eux durant la saison régulière. D'ailleurs, écoute, pour te donner une idée, là, il y a eu seulement 9 premiers essais pour les GGs, puis 25 pour l'adversaire. Donc, on avait deux équipes qui n'étaient pas de la même force, mais ça me permet de dire chapeau au programme des GGs qui a eu toute une saison. Cette année, tout le monde a été témoin de ça en plus lors du match de la Panda. Donc, c'est important de souligner la super saison qu'ils ont eue.
Quel match à part de ça, quelle belle expérience. Au Québec, ce sera les Carabins contre le Rouge et Or, mais dans des contextes un peu différents. Là.
Et ça fait 10 ans que ça arrive. Tu dis, les gens qui suivent un peu le football universitaire au Canada, c'est toujours pareil. Laval contre Montréal dans la conférence du Québec. Mais ce qui a changé, c'est que pour se rendre là, on ne domine plus. Les deux équipes ont gagné par la peau des fesses dans leurs demi-finales respectives. Et donc, il y a vraiment un changement puis une parité enfin qui s'installe au football universitaire québécois.
Au pic et à l'appel, qui l'emporte dans ce match-là?
Je pense que Rouge et Or avait 14 000 fans. Et le tailgate, le bruit qu'ils ont dans leur stade, c'est très difficile pour un adversaire d'un joueur universitaire, hein, c'est pas des pros. Ils sont intimidés dans cet environnement-là, puis je pense que Laval va être avantageux.
L'entraîneur Constantin, tu le mets où dans la hiérarchie, puis ce qu'il a fait au cours des dernières décennies avec ce programme-là? Là?
Ben, premièrement, tu le mets là où il mérite d'être. Il n'y a personne qui a autant gagné de matchs au football universitaire dans les 15 dernières années. Mais en même temps, quand tu cherches le pourquoi, il n'y a personne qui avait les budgets disponibles. Mmh. Donc, il est vraiment supporté par l'entreprise privée. Ça aide quand tu vas recruter des joueurs, puis tu peux te promener, puis tu peux offrir, surtout, exemple, un camp d'entraînement, Nicolas, en Floride, en avion à ton équipe. Donc, il y a des choses, je dis pas, ça n'enlève pas ce qu'ils ont fait sur le terrain. Chapeau, ils méritent d'avoir fait tout ce qu'ils ont fait pour élever le football universitaire au Canada.
Effectivement, mais on a l'impression, avec ce que tu viens de dire, qu'on ne se bat pas nécessairement à armes égales. Ouais. Ce jeudi, on vous revient avec la capsule avec vos lunettes de coach. De quoi sera-t-il question?
Ben, plusieurs personnes avec qui je regardais des matchs dernièrement disaient « Pourquoi faire qu'on bouge tellement à l'offensive? » Quand le ballon est à terre, le joueur de centre s'installe, le carrière appelle des choses. Mais là, il y a des joueurs à droite et à gauche qui tournent, qui se déplacent. C'est pas pareil dans la NFL, mais on va parler de ça. On va parler d'à quoi ça sert, puis surtout, je vais vous donner quelques indices qui vont vous permettre de savoir ce qui risque d'arriver quand le ballon va se lever.
Toujours plaisant de te parler, mon cher ami. Je te souhaite de passer une excellente fin de soirée. On se parle ce jeudi.
Bonne semaine.
Marc Schreiber, mesdames, messieurs, qui nous parle football deux fois la semaine, les mardis et les jeudis. On vous invite à nous écouter pour ceux qui ne le savaient pas déjà, disponible maintenant en reprise ou pour une première fois n'écoutez pas l'émission là, en original. On est disponible pour les balado-diffusions maintenant pour les plateformes et merci de nous suivre évidemment. Et l'application, c'est disponible pour toutes les plateformes d'ailleurs gratuitement. Pendant qu'on va se préparer pour parler avec Rosanne Joly de basketball, faudrait vous rappeler que ce soir à 19h, on a un match au hockey Véronique Lossière des Sénateurs contre les Canucks de Vancouver. Une soirée quand même chargée dans le monde du hockey avec 11 matchs au programme, dont l'Arizona à Buffalo. Il y a Montréal qui va visiter les Red Wings à Détroit. Les Maple Leafs reçoivent les Golden Knights, Nashville à Seattle. Seattle, surprenant, deuxième de la Pacifique en ce moment. Et Edmonton contre Tampa, je regarde ça du coin de l'œil. Kucherov, toujours aussi dominant, traverse une séquence de 10 matchs consécutifs avec points. Dans cette séquence, 6, 13, 19. Si vous l'avez dans votre pool, rapporte beaucoup. Et je vous dis félicitations, vous êtes chanceux, chanceuse. Parlons un peu de basketball. Et notre prochain invité va nous dire que on n'a pas été chanceuse pour remporter ces deux victoires-là en levé de rideau de notre nouvelle saison. On parle de basketball avec l'entraîneur-chef du programme féminin de basketball des GGs de l'Université d'Ottawa, Rosanne Joly. Rosanne, comment vas-tu?
Ça va bien, merci. Oui, effectivement, pas de chance.
Ouais, pas de chance, non, parce que c'est au pic et à l'appel, puis c'est l'effort qui a fourni ça. Quand même, deux victoires comme ça contre surtout McMaster, qui est une puissance dans la hiérarchie, c'est quand même gratifiant de pouvoir débuter comme ça.
C'est vraiment gratifiant. Je pense qu'on a vraiment établi là, la force puis l'équipe qu'on veut être pour le restant de la saison. McMaster qui sont hyper physiques. Je suis contente en fait de les avoir joués en début de saison parce qu'on n'est pas dans la même conférence, donc on les joue pas une deuxième fois. Elles vont devenir évidemment très fortes d'ici la fin de la saison. Donc oui, deux grosses victoires le week-end dernier.
Donc 74-55 contre York et 68-66 au photo finish avec McMaster. Et pour vous donner une idée du drame qu'on a vécu, Natsy Skoskin, pardonnez-moi, j'espère que je prononce bien son nom, a été certainement l'héroïne de la rencontre en marquant le panier gagnant à 3 secondes de la fin. Là.
Oui, Natsuki Suzukin, qui vient du Japon, en fait. Il restait 12 secondes. Je suis vraiment mise dans des situations difficiles en début de carrière comme entraîneur-chef. C'était égalité 66-66 avec 12 secondes. Je devais prendre un temps mort, dessiner un petit jeu rapide. Qui a porté fruit, pas nécessairement selon le plan, mais Natsuki, notre petite meneuse de jeu, était capable de se rendre jusqu'à l'anneau puis de finir avec sa main gauche.
Beaucoup de nouvelles venues dans ton programme, comme tu nous l'avais dit précédemment. Comment on peut parler justement de l'effet homogène rapidement qui semble avoir été atteint là, dans votre vestiaire?
Oui, je suis vraiment contente que tu me poses la question parce qu'on l'a... On l'a vécu le week-end dernier. Gros match contre McMaster, c'était super physique. On a perdu deux membres de notre 5 partants le lendemain. Une avec une commotion, l'autre avec hyperextension du coude. On devait avoir un plan de match assez difficile contre York le lendemain avec deux gros membres de notre équipe qui en faisaient pas partie, qui faisaient pas de partie de l'aliment, puis finalement, ça allait vraiment bien fonctionner. On a gagné par près de 20 points contre York, qui sont aussi une bonne équipe là, cette année dans la Ligue de l'Ontario.
Oui, les joueuses Gucci Provencher et Renan qui manquaient à l'appel. On va en parler dans quelques instants, mais je veux revenir un peu sur un aspect, et pas nécessairement négatif, mais est-ce qu'on peut parler peut-être d'une difficulté à protéger l'avance dans ce match-là? Parce que, si je ne me trompe pas, dans la première demi, vous meniez quand même d'une grosse façon, là.
Oui, à la mi-temps, en fait, je pense que c'est égalité 33-33.
Mais c'est
on venait
3e.
Par deux points. Mais c'est vraiment la fin du troisième quart où est-ce qu'on a pris l'avance par 14 points. Est-ce que tu m'entends bien?
Oui, oui, je t'entends très bien. C'est ce que je voulais dire. Donc, au troisième quart, pas la première demi, mais à un moment donné, vous avez eu une grosse avance puis vous avez eu de la difficulté à la protéger. Qu'est-ce qui a causé, ce revirement-là puis de cet aspect du jeu-là qui vous manquait peut-être, là?
Oui, en fait, je mettrais pas ça sur la cohésion, même si dans les équipes au Canada, on est celle qui a pratiquement joué le moins de matchs en pré-saison. Mais ça pourrait être dû au fait que oui, en fait, on a pas joué autant de matchs, mais c'est pas la cohésion parce qu'on est capable de provoquer des lancers ouverts, des lancers faciles près de l'anneau, des lancers de 3 points complètement ouverts. On a des bons lancers. En ce moment, le pourcentage de réussite est quand même très bas dans notre équipe. Donc j'espère que ça va être quelque chose qu'on va être capable d'améliorer parce qu'on joue bien. On joue avec la rapidité. On est une des meilleures équipes en transition offensive au Canada. Maintenant, c'est de ralentir notre finition. Là, vraiment, là, ça serait que notre pourcentage de réussite augmente.
On avait dit précédemment que Brigitte Lefebvre-Okankou serait la responsable d'une grosse partie de vos succès. Elle n'a pas déçu. À ses deux premiers matchs, 20 points, 12 rebonds, 24 points, 9 rebonds pour le deuxième. Parle-moi de la qualité de son jeu et surtout de sa qualité comme leader également.
Ah, c'est. J'étais vraiment fière de l'équipe en entier. Pour vrai, après la fin de semaine, on a vécu des grosses situations qui sont pas nécessairement reliées au basketball en début de saison. Puis là, on fait face à de l'adversité, puis on a vraiment bien répondu. Mais Brigitte, c'est ça, c'est un leader exceptionnel. Puis on le voit dans son jeu puis dans sa détermination. C'est sa dernière année, puis non seulement elle veut laisser sa marque, parce que c'est sa dernière année, mais on a un objectif collectif de se rendre jusqu'au championnat national puis de le gagner. C'est vraiment notre objectif cette année. Puis elle donne tellement de l'énergie sur le terrain, à l'extérieur du terrain. Là, c'est notre noyau présentement.
Votre noyau, puis évidemment, on espère que la santé sera tout le temps là, parce que est-ce qu'on peut parler de la profondeur? Puis je reviens un peu sur les deux absences, Gucci Provencher et Renan. Ça a donné plus de charge de travail à vos joueuses en rotation. Et ça, évidemment, ça semble vous avoir bien servi. Peux-tu nous parler comment qu'on pallie justement à l'absence de gros noms comme ça?
Oui, puis en plus, on en a une troisième qui a subi un autre commotion cérébrale le lendemain. Donc, on a commencé l'année avec 18 étudiantes athlètes sur l'alignement. On en a eu seulement 11 sur la feuille de match le samedi pour affronter York. Je pense que c'était de l'effort du recrutement des dernières années qui a porté fruit. On a vraiment des bonnes recrues qui rentrent année après année. Puis là, on a quand même un noyau, là, notre top 10. C'est toutes des 3e, 4e, 5e année. Donc l'expérience en ce moment fait une grande différence.
Vous allez jouer en 20 semaines sur la route. Deux programmes, un contre Laurentian vendredi, puis l'autre contre Nipissing samedi. Parle-nous du challenge de ces deux matchs-là.
Et contre des équipes, contre Laurentian, contre Nipissing, d'habitude, c'est entre les deux oreilles. C'est vraiment plus du jeu mental. C'est pas des équipes qui sont super fortes dans l'Ontario. Mais moi, par contre, je suis dans mes premières années comme entraîneur-chef, puis je veux m'assurer que j'utilise tous les matchs qui me sont donnés pour pratiquer certaines choses là, pour vraiment le plus possible être préparé pour le championnat national. Donc, c'est pas nécessairement les meilleures équipes là, en termes techniques, mais on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer si on sous-estime ces équipes-là.
Et qu'est-ce qui pourrait jouer en votre faveur dans ces deux matchs-là?
L'exécution. On a de la difficulté un peu avec l'exécution en fin de corps après les temps morts. Donc, je veux vraiment utiliser ces deux matchs-là pour le plus possible être sur la même page avec les athlètes. Bien communiquer, puis vraiment s'assurer qu'elles sont capables d'exécuter, parce que ça va être souvent le cas contre des équipes qui sont plus difficiles ou est-ce que les scores vont être plus serrés. Puis en tout moment, là, il faut vraiment s'assurer d'avoir du focus à 100%.
Rosanne, si tu le permets, j'aimerais parler d'une petite nouvelle dans le monde de la NBA. Puis on a appris que Dwight Howard avait décidé de signer avec une formation de Taïwan. Je voulais juste avoir ton impression sur les possibilités pour les athlètes professionnels de jouer en dehors des cadres de la NBA. Est-ce qu'on peut vraiment bien vivre de notre sport si on est un joueur en NBA puis qui veut peut-être faire le tour du monde, là?
Oui, je connais beaucoup de gens en fait qui jouent en Europe dans des ligues où les salaires évidemment sont pas les mêmes que dans la NBA, mais ça peut être dans les 6 chiffres, ça peut être des carrières pendant plusieurs années. Taïwan, je sais pas s'ils font partie de ces ligues-là où le salaire est bon. Par contre, Howard, on sent pas qu'il est en fin de carrière. Ouais,
je pense probablement qu'il pourrait se payer une coupe d'équipe à Taïwan aussi.
C'est ça. Je pense qu'il le fait par expérience, par amour pour le sport, puis c'est bien de pas nécessairement penser au jugement des autres et tout ça. C'est vraiment lui, il veut probablement le faire juste parce que c'est sa passion, parce qu'il n'est pas prêt encore à dire au revoir au sport qu'il a apporté tant. Mais c'est pas rare qu'il y ait des jeunes qui se font repêcher dans la NBA, qui se retrouvent dans la G League, puis là, finalement, vont en Europe pour aller chercher un peu plus d'expérience, puis ils font un retour par la suite dans la NBA. Ce ne sera pas le cas pour Howard présentement, mais oui, c'est possible de pas nécessairement commencer sa carrière dans la NBA, puis après ça, faire un retour.
Toi-même, pour conclure là-dessus, tu as vécu à travers le monde et tu as vécu justement ton expérience de basketball. Est-ce que c'est juste de croire que c'est un sport qui, élargit ses pénates à travers le monde? C'est un sport en expansion sur la planète?
Oui, c'est un sport qui n'est pas encore pratiqué partout. La NBA font un bon travail. J'avais travaillé pour une des branches de la NBA internationale en 2020, où j'avais déménagé à Dubaï pendant 8 mois pour travailler pour les écoles de la NBA. Donc, leur focus en ce moment, c'est vraiment le Moyen-Orient. Parce que le basketball n'est pas vraiment pratiqué dans ces endroits-là dans le monde. Mais oui, c'est pas un sport encore qui est pratiqué partout. Puis il y a un gros focus aussi en Afrique pour essayer de structurer le plus possible le basketball.
Ben, on dit félicitations parce que c'est grâce à des personnes comme toi que le sport connaît son émancipation à travers la planète. Alors, clin d'œil pour ceux qui osent et surtout, bon match pour les levées de rideau. Et on souhaite évidemment une bonne fin de semaine contre le Ranchon et les Pissing. Rosanne, bonne fin de soirée. Un gros plaisir de te parler puis on se dit à la semaine prochaine.
Merci beaucoup. À bientôt.
Rosanne Jolie, mesdames, messieurs, entraîneur-chef de la formation féminine de basketball de l'Université d'Ottawa, les GGs, on les salue. Ça termine l'émission dans le vestiaire. J'espère que vous poursuivez la soirée avec nous. L'avant-match du CECCE s'amène dans quelques instants. Vers 19h05, ce sera le hockey Véronique Le Sieur des Sénateurs. Les Sens contre les Canucks, pardon. Les deux formations sur la glace pour le réchauffement d'avant-match. Alors moi, je vous dis à tantôt pour le hockey Véronique Le Sieur et merci de nous avoir écoutés pour Dans le vestiaire.